Dans l'Évangile, c'est très rare que l'on signale que Jésus est fatigué par la route. Pendant 3 ans, il a parcouru maintes et maintes fois du nord au sud, de la Galilée à la Judée, ce territoire. Et pour passer d'un à l'autre, il fallait qu'il passe par la Samarie. La Samarie était un coin un petit peu où les gens n'aimaient pas ceux qui résidaient dans ce coin-là, parce que selon eux autres, c'était des idolâtres. Ils ne pratiquaient pas la vraie religion d'Israël. Et ils étaient souvent chicanés au niveau politique, au niveau social, à tous les niveaux. Alors, passer par le territoire de Samarie, c'était une nécessité. Quand tu partais de Jérusalem, tu montais vers Nazareth, par exemple, le lac de Tibériade, il fallait que tu passes par la Samarie. Alors, pendant 3 ans, Jésus a maintes fois passé par ces territoires. Il a donc dû traverser la Samarie à plusieurs occasions. Et comme je disais, les Juifs et les Samaritains ne faisaient pas bon ménage. On se méprisait, on se dénigrait, à qui le mieux. Et Jésus, lui, ne semble pas avoir eu des préjugés contre les Samaritains. Au contraire, dans une de ses paraboles, il nous parle du bon Samaritain. Celui qui est allé soigner ce bonhomme qui avait tombé aux mains des voleurs et qui l'avait laissé sur le bord de la route. Le prêtre a passé, le lévite a passé, et Jésus dit, un Samaritain passa par là. Et lui, il en a pris soin, il a pansé ses plaies, il l'a relevé, il a monté sur sa monture pour l'amener dans un hôtel, dans un petit village, puis il en a pris bien soin. De telle sorte que l'expression est demeurée. Être un bon Samaritain, ça veut dire être vraiment charitable. Jésus, lui, il n'y a pas de préjugés contre les Samaritains. Les autres, et même ses disciples, ont trouvé un peu curieux qu'il parlait avec une femme et surtout une Samaritaine. Et la Samaritaine elle-même est toute étonnée. Comment, toi qui es un Juif, tu me demandes à voir à moi, une Samaritaine? Et surtout, ça se faisait en public, c'est sur la place publique, là où était le puits de Jacob. Alors, Jésus, spontanément, s'adresse à cette femme-là. Il n'a pas les préjugés des gens de son époque. Dans l'évangile de ce jour, Jésus fait un arrêt à Sychar, au puits de Jacob. Il a chaud, il fait chaud, il a soif. Puis il voit cette femme qui est en train de puiser de l'eau. Alors, lui, il demande à boire. Jésus, lui, n'a rien pour puiser. Pourtant, il dit à la Samaritaine, si tu me connaissais comme il faut, là, c'est toi qui m'aurais donné. C'est moi qui t'aurais donné à... Tu m'aurais demandé à boire. Et moi, je donne une eau qui n'est pas comme la tienne. L'eau que je vais donner, c'est une source d'eau éternelle, de vie éternelle. Et Jésus il a soif, lui. Puis la Samaritaine aussi a soif. Parce que là, elle vient puiser de l'eau. Mais aussi, elle a soif de spiritualité, elle a soif de vérité, puis elle a soif de salut. Elle se pose beaucoup de questions sur la religion. Est-ce qu'on doit adorer Dieu ici en Samarie ou s'il faut aller l'adorer à Jérusalem? Est-ce qu'il faut aller sur la montagne en Samarie pour reconnaître Dieu? Et elle reconnaît vite que Jésus aussi est un prophète parce qu'il lui révèle ce qu'elle a fait. Parce qu'à un moment donné, Jésus dit, « Ok, va chercher ton mari, puis là, puis reviens. Reviens me voir, puis on regardera ça pour nous vivre. » Ah, je n'ai pas de mari. Jésus dit, « Oui, c'est vrai. T'es une femme honnête, tu dis la vérité. Parce que le mari que tu as là, présentement, c'est même pas le tien. T'en as eu 5. » Alors, elle est toute étonnée de ça. Et là, elle dit, « Ça doit être un prophète, parce qu'il vient de nous dire ce que je vis. » Puis, il a l'air d'avoir la vérité en lui. Fait qu'elle reconnaît très vite que Jésus est un prophète. Et elle lui révèle tout ce qu'elle a fait. Lorsque Jésus lui propose de donner de l'eau vive, elle est un peu sceptique, car Jésus n'a rien pour puiser. Cependant, elle lui demande de lui donner cette eau qui deviendra en elle source jaillissante de vie éternelle. Et c'est tranquillement, peu à peu, que la Samaritaine accueille le salut que lui propose Jésus, ce Juif à qui elle ose s'adresser. Par la suite, elle devient aussi un témoin auprès de ses concitoyens, parce que beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause des paroles de cette femme. Et Jésus et ses disciples demeurèrent 2 jours Sychar. Imaginez ça, les Samaritains, les Juifs, qui ne s'aimaient pas du tout, qui ne voulaient pas trop avoir des rapports avec ces gens-là, bien Jésus et ses disciples, ils sont invités par les Samaritains, puis ils passent là 2 jours de temps. Pour des gens qui ne s'adonnent pas, hein. C'est pas pire ça. C'est un peu comme en politique. Des fois, on pense que ça va être pas pire. Ça. Puis dès qu'on ouvre la porte un peu, on s'aperçoit que finalement, on recherche quasiment toute la même chose. Alors, les Samaritains et les Juifs s'inscrivaient un peu dans une démarche comme ça. Et l'accueil de la part de ces Samaritains-là bien, a fait que Jésus, en tout cas, il a sûrement donné une belle occasion à ses apôtres de dire, voyez, quand on veut s'entendre, c'est pas du mauvais monde, ces Samaritains-là. On les dénigre, on les méprise, mais c'est du monde comme n'importe qui. C'est du monde qui cherche Dieu. Regardez la Samaritaine. Elle veut chercher Dieu, elle veut trouver le Messie, elle veut avancer dans sa religion. Alors Jésus, lui, il a soif, puis il quête un verre d'eau. La Samaritaine, elle aussi, a soif, puis elle veut cette eau vive qui gèle. Les deux ont soif. Jésus, la Samaritaine, et j'imagine que les apôtres aussi se sont désaltérés auprès de cette source du puits de Jacob. Cela nous rappelle plusieurs paroles des psaumes. Dans les psaumes, on trouve ça souvent. Avoir soif, être abreuvé. Par exemple, on dit « comme une biche soupire après l'eau du ruisseau ». Hein, le chevreuil qui arrive sur le bord d'un ruisseau, il vient se désaltérer. Nous aussi, nous soupirons après toi, mon Dieu. Dieu, toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Et dans un autre psaume, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Donc, avoir soif dans la Bible, c'est pas seulement de l'eau là, physique, naturelle, mais c'est avoir soif de Dieu, se faire désaltérer par sa parole. Nous pouvons survivre très longtemps sans manger. Cependant, nous ne pouvons pas survivre très longtemps sans boire. Quand quelqu'un fait un grand jeûne, soit de protestation, tout ça, il peut durer des fois quelques mois, mais il va boire. S'il ne boit pas, là, 5 jours, 6 jours, 7 jours ou plus, notre corps, et je ne sais pas, je pense que c'est 60% que notre corps est fait d'eau. Alors quand on en mange, ben, on meurt, on ne peut pas faire autrement. Alors, nous ne pouvons pas survivre longtemps sans boire. Il en va de même dans notre vie spirituelle. Nous devons régulièrement nous abreuver d'eau douce et d'eau vive. C'est ce que Jésus explique à la Samaritaine. Il lui offre une eau vive. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car cette eau deviendra pour lui une source où coulera la vie éternelle. Alors ce matin, si nous sommes réunis dans cette église, c'est parce que nous autres aussi, nous avons soif. Nous avons soif de la parole de Dieu, nous avons soif de fraternité, nous avons soif de vérité, nous avons soif de toutes sortes de belles choses que Jésus peut nous donner. Nous avons faim et soif de l'Eucharistie, par exemple. C'est pour ça que tout à l'heure, vous allez venir recevoir le corps et le sang du Christ. On a soif, on est des êtres qui ont besoin d'eau. Alors ce matin, nous sommes venus puiser cette eau vive et étancher notre soif, que le Christ nous comble de ses grâces. Et c'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.